Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Round the World sur Radio Présence Pyrénées. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un écrivain connu, reconnu, un écrivain du commun, j'ai un écrivain qui parle du commun, je par ses romans historiques, ses romans policiers, j'ai le plaisir de recevoir Christian Louis. Bonjour Christian.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation et nous sommes aujourd'hui présent sur ce plateau pour parler de votre dernier opus historique Guillotiné à Saint-Gaudens. Alors peut-être avant de commencer de parler de ce nouvel ouvrage historique qui vient juste de paraître, pouvez-vous peut-être, je crois que vous êtes un ancien enseignant et que vous êtes toujours enseignant en demeurant, je crois qu'un enseignant, un professeur ne s'arrête jamais. Pouvez-vous vous présenter, mais selon un principe de classe inversée, parce que généralement c'est le journaliste qui présente son interviewé. Et ben là, on va inverser. Et je vous laisse vous présenter en quelques mots pour que les personnes qui elles ne vous connaissent pas puissent mieux vous situer.
Oui, mais c'est à la fois et facile et difficile. Facile parce qu'il suffit de décliner un CV. Et difficile parce que là-dedans, il faut bien sélectionner quelques éléments. Bon, moi, je suis né en 57 à Saint-Gaudens. Donc je suis un vieux bonhomme, hein, pas loin des 70 ans.
Pardonnez-moi, vous me déridez là.
je suis un passionné d'histoire depuis l'école primaire. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants de grande qualité, aussi bien à l'école que au collège. Donc j'ai toujours aimé l'histoire et puis ensuite j'ai poursuivi mes études. Je me prédisposais à une carrière d'ingénieur et puis à un moment donné une rupture s'est faite, une rupture positive d'ailleurs. J'ai voulu rentrer dans l'éducation nationale avec l'image mythique de hussard noir de la République, c'est-à-dire cet instituteur qui est nommé dans un village et qui va mettre en place un ciné-club, une bibliothèque, enfin de la culture. Et je suis parti un petit peu sur ces représentations-là. Très vite, je me suis, je dirais pas un petit peu ennuyé, mais oui, tout de même. Et donc, j'ai repris des études. Des études universitaires à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aux Beaux-Arts. Puis ensuite, j'ai passé une agrégation et je suis donc devenu professeur du secondaire et du supérieur. Et en parallèle de tout cela, j'ai eu, et j'ai toujours d'ailleurs, une carrière d'artiste plasticien où j'ai pu produire des œuvres miniatures, mais aussi des œuvres monumentales qui se retrouvent sur certaines places de village ou dans certains établissements scolaires. Et j'ai exposé en France et à l'étranger, en France au Grand Palais à Paris, dans diverses galeries d'art, dans plusieurs musées. Et puis à l'étranger, en Italie, au Canada, au Mexique, à San Luis Potosi, par exemple, au Musée d'art contemporain, mais dans divers lieux. Et en parallèle de tout cela, puisque je suis un gourmand, je ne m'interdis rien, j'ai écrit. En 78, je publie mon premier bouquin grâce à une de mes profs, et puis ça ne s'est jamais plus arrêté. Et donc j'en suis, le livre dont nous avons parlé tout à l'heure est le 81e publié. Il y en a quelques-uns que j'ai toujours sous le coude, que je n'ai pas voulu qu'ils paraissent, parce que bon, ils sont peut-être à retravailler. Donc, des livres d'art, des essais, des albums jeunesse, des romans jeunesse, des polars, des romans historiques. Et depuis quelques années, j'alterne tous les ans deux publications. Un roman historique, un polar. Celui dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, j'espère en tout cas, qui est sorti aujourd'hui, m'a demandé 4 ans de travail, 4 ans de recherche d'archives pour nourrir un récit, car la difficulté et le charme aussi du roman historique, c'est qu'il faut embarquer le lecteur dans un récit, mais que ce récit doit se fonder sur de la vérité historique. Donc chaque fois que je trouve une information en archive, je la croise, je la recoupe, je la vérifie, car qui dit archive ne dit pas 100% de vérité, il peut y avoir des erreurs.
Donc votre travail d'écrivain, en somme, c'est à la fois, et j'aime beaucoup votre expression, embarquer le lecteur. C'est vraiment l'emmener en voyage avec lui. Donc si on parle de Guillotiné à Saint-Gaudens, c'est finalement par ce fait divers à Estadens, amener le lecteur à revivre le Comminges du 19e siècle. Est-ce cela ?
C'est exactement ça. Raconter un fait divers tel qu'il a été raconté ces dernières années dans un petit livre, 4 pages, dans un article de presse, donc quelques signes, n'était pas pour moi suffisant. D'ailleurs, quand je les ai trouvés, j'ai failli arrêter d'écrire mon roman. Je me suis dit, bon, c'est fini, le sujet est grillé. Mais non, pas du tout. Car vous avez donc un homme, un cultivateur d'un petit village qui assassine sa mère et son fils une nuit de juin à coups de hache. Bon, on peut avec ça faire 200 pages, c'est tout. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Agriculteur, cultivateur, oui, mais comment vivait le cultivateur à cette époque-là ? C'était quoi l'économie ? C'était quoi la culture ? La naissance de son fils, oui, mais comment ça se passait à l'époque ? Donc j'ai découvert tous les rituels magiques que je décris dans le roman, qui étaient là en place justement pour protéger cet acte de naissance. Et puis Estadens, bon, ok, mais Aspé et tout le territoire autour, comment ça se jouait ? Et puis je découvre que cet homme venait très souvent à Saint-Gaudens. Et alors oui, d'accord, Saint-Gaudens, mais je peux pas juste dire ça. Saint-Gaudens, quand il fréquentait cette ville, combien d'habitants, quel commerce, comment cette ville fonctionnait. Donc c'est vraiment une enquête à la fois sur un territoire, un espace, sur un temps, fin 19e siècle, sur des pratiques culturelles, pour comprendre pourquoi, dans ce contexte-là, nous avons quelqu'un qui va assassiner. Et je découvre qu'à cette époque-là, il y a beaucoup d'assassinats à Saint-Gaudens autour, des faits divers terribles. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur les audiences du tribunal, par exemple.
Je suis assez épaté par votre approche, parce que finalement, vous parlez d'un espace géographique, le Comminges, d'un temps, ici le 19e siècle, dans votre dernier opus, Guillotiné à Saint-Gaudens, mais également, je sais pas comment on peut dire, de la mentalité des gens de l'époque. Donc il y a, je dirais presque, dans votre travail, une approche d'historien, de sociologue, voire d'ethnographe, d'essayer de cumuler ces 3 disciplines scientifiques pour, comme je le disais tout à l'heure, embarquer les lecteurs, dans votre histoire. Petite question taquine. Derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail de détective privé. Je vais partir de minutes d'audience, d'une pièce d'archive, mais est-elle authentique ? La croiser avec d'autres ? Je sais que vous êtes très habitué des bibliothèques, des archives, de tout un tas de lieux où sont stockées la mémoire, quelque part. Je sais que vous aimez la tradition. Si vous étiez un détective privé, qui seriez-vous ?
Je pense que je serais Hercule Poirot. Parce qu'il y a une quatrième dimension qu'on n'a pas évoquée, qui est la dimension psychologique. Comprendre l'acte d'un criminel, c'est bien sûr le contexte, tout ce qui est extérieur à lui, mais il y a aussi ce qui est en lui. J'ai donc reconstitué la vie de ce personnage de sa naissance à sa mort terrible, le 19 octobre 1900, à Saint-Gaudens, quand il est guillotiné. Et j'ai trouvé des fêlures. J'ai trouvé un certain nombre de moments clés de sa vie qui peuvent expliquer, pas accepter, mais qui peuvent expliquer pourquoi, à un moment donné, cet individu normal a ruiné sa famille, a été d'une violence absolue et a dérivé complètement. Donc je raconte tout cela. Donc il y a cette dimension psychologique, ce qui est pour moi un petit peu la manière de faire d'Hercule Poirot.
Alors si on était de manière un petit peu plus contemporaine, il y a beaucoup de séries policières aujourd'hui qui sont diffusées à la télé, sur les plateformes. Votre propos me fait écho à une série qui a été diffusée au début des années 2000 qui s'appelait Esprit criminel. C'était une série où il y avait une équipe du FBI qui était spécialisée en sciences du comportement et qui étudiait les criminels pour résoudre des enquêtes. Et vous, quelque part, vous faites cette... Enfin, je le comprends comme tel, et vous allez peut-être m'infirmer mon propos, c'était de dire que finalement, vous étudiez comment l'individu fonctionnait dans son espace-temps donné, parce que effectivement, cette quatrième dimension, c'est quand même la psychologie du personnage principal du roman. C'est-à-dire que vous travaillez sur pièce, hein, parce que j'imagine qu'il n'y a plus de témoins. Donc, vous travaillez sur pièce et que vous instruisez quelque part cette psychologie pour essayer de comprendre comment ce personnage, dans son espace-temps donné, a, alors pardonnez-moi l'expression, elle va être un petit peu triviale, vrillé, parce que quand même, tu as la hache, sa mère, c'est pas quelque chose de commun. Alors, peut-être, vous allez peut-être aussi me confirmer que c'était peut-être plus commun qu'on ne le pense au 19e siècle, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Sur la question de est-ce que le monde était déjà violent avant et comment l'est-il maintenant, hein, c'était l'éternelle question de c'était mieux avant ou pas. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que la plus-value de votre travail et peut-être plus générale des écrivains, c'est d'ajouter cette quatrième dimension, finalement telle que vous disiez, à votre travail d'écriture sur ce registre d'ouvrage, à savoir, on est sur un espace, un temps, une mentalité, un environnement, mais que sans comprendre la personnalité finalement du personnage qu'on ausculte, on n'embarque pas le lecteur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Embarquer, je vais revenir sur la fin de votre question, embarquer le lecteur, c'est certainement la chose la plus difficile. Difficile car là on touche à une autre dimension du travail. Nous avons jusqu'à présent parlé de l'enquête, de tout ce travail préalable qui me permet, moi, de collecter du matériau. Quel matériau, comment, etc. Et là, vous parlez un petit peu d'embarquer le lecteur. Embarquer le lecteur, c'est par le langage. C'est par le langage, c'est par la structure du récit. Là, par exemple, le roman s'ouvre sur la scène du réveil du condamné. Voilà, c'est Étienne Porte, dit Puteau, est endormi dans la cellule numéro 1 de la prison qui se situait à Avenue Anselme-Marieux. Il se réveille et là, on lui annonce que le président Loubet, le président de la République, a refusé sa grâce et il va donc être exécuté une heure après. Et donc, il y a une dimension, je dirais, une dimension d'effroi qui doit capter le lecteur. Et puis ensuite, on se pose la question, le lecteur se pose la question, ou je suggère cette question, mais pourquoi ? Pourquoi est-il condamné à mort ? Et ensuite, donc, dans la structure de l'écrit, je mets en place un flashback et je commence à la naissance du personnage. Et donc, je décris toute la naissance. Et donc là, nous avons des parties qui sont dialoguées, des parties qui sont du descriptif, parce que ce qu'il me plaît dans le roman historique, c'est de dépeindre aussi le paysage. Alors, je sais que mes lecteurs de polar, qui ne lisent pas mes historiques, eux aiment la rapidité, la brièveté, les chapitres très courts, les petites phrases courtes, brèves, saignantes. Et dans le roman historique, je dresse un tableau avec plein de petits détails, parce que mon idée, c'est d'amener le lecteur à parcourir tout un univers. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'essaie de l'embarquer, en le plongeant dans un univers, ce qui m'avait été toujours dit par les lecteurs de l'assassinat de Sembea, me disant, difficile au départ de rentrer dans le tome 1, mais ensuite, nous sommes au 18e. Bien là, nous sommes à Saint-Gaudens au 19e.
Merci Christian pour ces quelques mots et ce premier temps d'interview. Nous allons faire une petite pause musicale, voyager en Bretagne, et nous revenons juste après cet intermède musical.
Pen crane ger vor monie Pen tusch gesen galien monie Ach en galer vlien monjes Polat un ich stoch kages fre Kanen mores monoi I kopin hit godum kushie Gesen glein chinam Ker galige heich nur es pianet der rebesen nau
Je suis toujours avec Christian Louis dans Around the World sur Radio Présence Pyrénées. Nous parlons de son nouvel opus, Guillotiné à Saint-Gaudens, qui vient tout juste de sortir. Et avant cet intermède musical, nous discutions de finalement comment embarquer le lecteur. Et je crois que finalement, il y a deux choses qui se croisent. La technique d'écriture et le fait de rendre un environnement crédible par les quatre dimensions que nous avons évoquées, dont la dernière, qui est celle de la psychologie du personnage principal. Moi, il y a quelque chose qui me fait un petit peu sourire, parce que vous disiez tout à l'heure, juste avant la coupure, que vos lecteurs de romans policiers aiment ce côté percutant, phrases courtes, chapitres courts, mais que finalement, le roman historique est peut-être un genre qui vous permet de faire une pause, de vous étaler plus longuement dans le temps. Si je vous demande de définir l'histoire, c'est quoi pour vous l'histoire, au sens large ?
Pour moi, l'histoire, c'est le récit du passé. Ce n'est pas que le passé, c'est ce que l'on raconte du passé. C'est donc du narratif, en quelque sorte. Et on le voit bien quand on s'intéresse, je dirais, aux diverses idéologies qui utilisent l'histoire. Vous avez certains régimes politiques qui sélectionnent des événements historiques et qui en oublient d'autres. Et dans ce qu'elles ont sélectionné, il y a aussi la manière de raconter l'histoire. Donc c'est un récit. Donc moi, je m'inscris dans cette idée de sélectionner du matériau et raconter. Ce que j'essaie de faire, puisque moi je ne suis pas inféodé à une idéologie, il n'y a pas de discours politique derrière mes romans. Il y a simplement l'envie de donner au grand public des clés de compréhension du passé. Car souvent, elles expliquent l'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Très souvent, j'entends des amis, des copains, ou des gens qui m'accostent dans la rue pour discuter de mes bouquins, et qui me disent « Oh là là, aujourd'hui, Mais qu'est-ce que c'est devenu violent? Qu'est-ce que c'est sale, c'est violent, c'est agressif et tout. Et j'ai envie de leur dire, mais ça serait un petit peu osé, question promo, mais lisez mon roman, vous allez voir. Au 19e siècle, quel est l'un des problèmes majeurs de Saint-Gaudens? La violence. Quel est le deuxième problème? Quand je dis la violence, c'est des bagarres terribles, des rixes entre adolescents, à coups de couteau, des dégradations formidables, des jeunes qui déboulonnent des bancs et qui les jettent par-dessus la promenade, ou qui cassent les lampadaires. Nous avons surtout deux gros problèmes à Saint-Gaudens à l'époque, c'est la prostitution au sens large et la saleté. Prostitution officielle, avec les deux maisons closes, celle d'Émile Cassagne et celle d'Ambroisine Goutz, qui se situaient pas très loin sur la route des Caussades, voyez, qui étaient donc les deux maisons, j'ai retrouvé les autorisations officielles de ces maisons closes, et j'ai même retrouvé le nom en 96 de quatre prostituées qui étaient dans l'une des maisons closes. Vous voyez, donc c'était vraiment un travail extrêmement précis. Et il y avait la prostitution, je dirais, non officielle, dans les cafés de la ville. Et c'était tellement important que les Saint-Gaudinois vont pétitionner en direction du maire pour lui demander l'interdiction de cette prostitution. Et le maire, Jean Bethmal, le célèbre Jean Bethmal, va produire un arrêté que j'ai lu, interdisant aux cafetiers d'utiliser des jeunes serveuses dans la salle. Et les serveuses et le personnel féminin devaient être validés par la mairie et rester en cuisine.
J'espère que ce personnel féminin n'a pas fini dans les mêmes maisons closes que vous avez précitées auparavant.
Non. C'était une prostitution officielle, mais qui avait déclenché quand même énormément de polémiques. Une autre difficulté de la ville, c'était le niveau de saleté. Il faut quand même que le maire, dans les années 90, Jean Bethmal, prenne un arrêté pour demander aux gens d'arrêter de jeter le contenu, je dirais, les excréments ou autres, sur la voie publique. Il faut imaginer que le Saint-Gaudinois de l'époque qui se promène dans la rue voit des étrons, voit tout un tas de trucs, vous voyez, sous ses yeux, avec une puanteur extraordinaire, et les cafetiers protestent, parce que ça sent mauvais. On va donc avoir des arrêtés, et je ne parle pas les attentats qui ont eu lieu à Saint-Gaudens, au point que on va nommer un commissaire spécial à Saint-Gaudens qui est chargé de repérer les éventuels anarchistes qui pourraient commettre des attentats.
En fait, dans votre description du Saint-Gaudens du 19e, vous savez, les gens d'aujourd'hui disent « Ouais, c'est toujours mieux avant, c'était plus facile, le monde était bien, il y avait des valeurs, des modes, la morale, etc. » Mais finalement, tel que vous le décrivez, la violence existait déjà, la saleté aussi. Sauf que les conditions étaient différentes, mais ces deux facteurs s'exprimaient déjà, mais de manière distincte entre le 19e et aujourd'hui. Donc, c'est juste un petit écho peut-être par rapport au passéiste, je sais pas quel terme on peut employer, aux gens qui pourraient regretter ce temps d'avant. Et finalement, comme vous disiez, lire vos romans, c'est aussi avoir cette fenêtre ouverte, non pas vers le futur, mais vers le passé, pour justement mieux comprendre finalement d'où on vient, ce que l'on est aujourd'hui, mais que les choses sont identiques quelque part, mais elles s'exprimaient différemment parce que le temps n'est pas le même. Et là-dessus, j'avais une question subsidiaire. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre l'histoire et le récit, l'histoire et la tradition ?
Oui, alors là, c'est quand même assez différent. Pour moi, l'histoire et le récit de l'histoire se fondent sur l'archive, sur les archives au sens large. Alors que la tradition est ancrée vraiment au plus profond des êtres et des sociétés. On a du mal d'ailleurs à en trouver le point de départ, la source. Elle se transforme génération après génération. Et je vais vous donner un exemple. Dans les campagnes, les anciens, mais moi je l'ai vu, jeune, quand ils coupaient une tranche de pain, vous savez, le pain de campagne, là, la grande, la miche, avec le couteau, ils faisaient une croix. avant de j'ai souvent entendu, que, quand j'ai posé des questions, moi, tout naïf, mais pourquoi faire une croix? Et donc, on me répondait, oui, mais c'est la croix de Jésus-Christ qui, lors de la scène, a partagé le pain. Et en fouillant, en cherchant, je me suis rendu compte que non, ça n'avait rien à voir. C'était un signe solaire, tout simplement. Car dans les Pyrénées, nous avons des cultes solaires que l'on retrouve dans les fleurs qui sont dessinées de façon géométrique sur les façades des maisons, en haut, en Barousse, par exemple, et en Frontigne. Donc, la tradition, c'est quelque chose qui... ce sont des croyances, souvent, des croyances qui se sont ancrées, et puis, alors que l'histoire, ce sont plutôt des faits précis. Et donc, le récit historique n'est pas le récit légendaire. Il doit se fonder sur des pièces, je dirais, indiscutables. Et ça a été tout, d'ailleurs, le travail, était toute la difficulté, d'ailleurs, de ce type d'entreprise, que de sélectionner un maximum de matériaux, mais vraiment le plus possible, et c'est ce qui m'a pris à peu près 4 ans, et puis ensuite, de tout vérifier, de tout valider. D'ailleurs, dans mes romans, vous trouvez à la fin une bibliographie.
Qu'est-ce qui me ferait aujourd'hui, à la lecture de votre dernier ouvrage, Guillotiné à Saint-Gaudens, réhabiliter Étienne Porte? Qu'est-ce qui me le ferait considérer sympathique ou pas, d'ailleurs?
Rien. Rien. Parce que... ou alors, on pourrait... Alors, pas de circonstances atténuantes, mais une explication. Je pense qu'un individu classique, normal, comme il était, un petit paysan, d'une ferme qui n'était pas très riche, mais tout de même, ils avaient du bien, à la fois à la banque, ils avaient des terrains, ils vendaient des veaux au marché d'Aspet, ils vendaient des céréales, donc ils vivaient, je dirais, confortablement. Un héritage substantiel avait été donné, et puis les accidents de la vie. Il perd sa femme lors de la deuxième grossesse. C'est donc un veuf. Il a fait son service militaire en Afrique. Je le raconte dans le détail, et je raconte même les batailles dans lesquelles il a été impliqué. C'est donc quelqu'un qui a été confronté à la peur, à la très grande peur. Il a eu vraiment peur de mourir, en quelque sorte. Et puis, les malheurs vont s'accumuler. Il rentre d'Afrique avec l'alcoolisme. Parce qu'à l'époque, pour donner de l'ardeur au combat, on va donner de l'absinthe. Ces soldats, quand ils reviennent, ils vont consommer l'absinthe. Sauf que là, on leur donne 2 gouttes, j'ai retrouvé le dosage, 2 gouttes d'absinthe pour 2 litres d'eau. Mais quand ils reviennent, c'est le verre d'absinthe. Et ça les rend fous. D'ailleurs, l'absinthe a été interdite. Pas. Donc, vous savez, ce contexte, la peur, lutter contre la peur par le stupéfiant, au sens large. Et c'est là qu'on peut faire des transferts avec aujourd'hui, également. Et voilà, un homme qui dérive complètement. Et c'est là que c'est intéressant, que le récit historique est intéressant. Plutôt que de se morfondre sur l'aujourd'hui en imaginant un hier idéal qui aurait existé un âge d'or et aujourd'hui tout serait dégradé, non, il y a une permanence. Il y a toujours des hommes et des femmes qui sont confrontés à des difficultés de la vie. Certains vont les gérer par la réflexion, par l'amitié, la fraternité, l'écoute, et d'autres par le stupéfiant. On voit bien ce dont je parle aujourd'hui, qui est aussi présent à Saint-Gaudens comme dans toutes les villes, et on voit également comment ça se passait à l'époque. Donc, tout ce récit nous dit, regardons aujourd'hui, regardons dans les yeux les problèmes qui se posent, qui étaient les mêmes que ceux qu'a vécu Étienne Porte, et puis essayons de trouver des solutions qui ne soient pas la répétition des erreurs du passé.
Donc, innover en regardant le passé pour s'instruire et peut-être s'inspirer des solutions qui ont été déjà produites pour résoudre certaines difficultés, mais éviter aussi les erreurs qui ont été faites. Merci Christian Louis de cet échange. Donc je vous rappelle, chers auditeurs, le dernier ouvrage historique de Christian Louis, Guillotiné à Saint-Gaudens aux éditions Cagir, disponible dans toutes les bonnes librairies et les différents lieux de culture sur Saint-Gaudens. Et je sais que Christian Louis sera prochainement et très prochainement en dédicace. Donc, si vous voulez aller le rencontrer, n'hésitez pas. Christian, quelle est votre prochaine dédicace?
Alors, les dédicaces à venir, la librairie, bien sûr, l'indépendante, la maison de la presse Dumas, le Super U de Gourdan.
Je crois que c'est ce samedi, sauf erreur de ma part.
Samedi prochain.
Le samedi qui vient ou l'autre?
Pas ce samedi, le samedi d'après. Et puis, il y a eu plusieurs conférences, notamment une à la Maison des Sources à Montléon-Barousse, où là, je projetterai des documents d'époque. Donc, il y a plusieurs, effectivement, plusieurs moments de rencontres. Sur ma page Facebook, je publie les dates et les lieux. Mais il y aura, bien sûr, beaucoup de temps de rencontres, car je sais par justement ma page Facebook, ce livre est attendu depuis un petit moment, on me pose beaucoup de questions, et je montrerai également des photos, des éléments sur certains personnages qui étaient clés dans la vie de Saint-Gaudens, Jean Bettemal, le célèbre docteur Jules Olé, le procureur Truchy, le juge Bardella, le substitut Deltil, ainsi que ce formidable journaliste qui a pu rentrer dans la cellule du condamné et qui a assisté à son réveil, Jean-Félicien Court, journaliste écrivain de Toulouse, et puis le célèbre maître Bise qui a défendu Étienne Porte.
Merci Christian Louis d'avoir accepté mon invitation dans Around the World pour parler de votre dernier opus historique Guillotiné à Saint-Gaudens. Je sais qu'un nouvel opus policier est en cours également de rédaction. Je vous remercie, chers auditeurs. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Around the World sur Radio Présence Pyrénées.